Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, on reprend nos aventures de Trip to Fly avec Fly.
Salut!
Ça va la pêche?
Ouais, la banane.
Et Antoine?
Hello.
Et c'est la dernière fois que nous sommes trois podcasteurs, podcastrices seulement, puisque la prochaine fois nous serons rejoints par Géraldine.
Par Géraldine, ouais. En fait, à la base, j'avais un perso en tête et un perso ailé.
Ouais.
Et je m'étais dit que vous le rencontriez, que je le jouerais, mais plus j'avançais dans la chronique, plus je me disais putain, mais ça, il faut vraiment que ce soit un joueur qui le joue. Je peux pas jouer. J'ai proposé à Géraldine, et elle a dit ok.
Ouais.
Donc elle a fait son scénar solo, donc c'est la dernière fois qu'on joue tous les trois, vous finissez votre petit scénar et la prochaine fois
ouais.
En fait c'est la table de 4 et il va y avoir des trucs qui vont se passer parce qu'il y en a qui ont fait du vilain.
Bon, on n'a pas fait du vilain, on a pris une épée qui n'était pas à nous et apparemment elle serait à Géraldine si j'ai compris le plot.
Oui. Et l'HDP avait prévenu ton personnage, Antoine.
Ouais, je sais pas si les gens comprennent. Alors, on avait parlé de ça.
Non, pas du tout.
Ouais,
on s'était arrêté. Alors, donc j'ai monté le podcast donc Trip to Fly aujourd'hui. Donc je sais de ce dont on a parlé.
La partie 1.
Voilà, la partie 1, ouais. Tout à fait. On s'était arrêté au moment du Haven. Donc cette espèce de comité, de secte, de clergé, on peut l'appeler comme ça.
Oui, l'espace de religion, la religion, voilà. La religion d'État.
Au temple du Haven a se fait un certain nombre de sacrifices cet hiver. Les gens,
dirigés par Bjorn.
Voilà, les gens se sont donc jetés volontairement dans le vide. Et nous avons assisté Alberic, donc le personnage d'Antoine, et moi-même, Mada, mon perso, à la résurgence de l'île sur laquelle nous nous trouvions. C'est-à-dire que l'île est remontée quelque peu et ça a fait fondre la neige et l'été est arrivé. Donc on avait compris, et on en était arrivé là, que le fait qu'il sacrifie des gens de la sorte, ça lâchait du lest sur l'île et que ça lui permettait comme ça de remonter. Ce dont on n'a pas parlé en revanche, c'est du fait que l'île n'a pas été la seule à remonter.
Alors attends, je t'arrête sur ça là.
Alors attends. Alberic.
Moi, cette notion là de lâcher du lest, de...
C'est vos théories, ça.
Moi, c'est pas du tout ma théorie. Enfin, moi, je joue pas du tout comme ça. Hein. Moi, c'est vraiment une récompense divine.
Bah oui, c'est Echo.
On se sacrifie et.
Et c'est Echo qui ramène l'été.
Et voilà, Echo nous remercie et pour cette année, voilà, l'île remonte un petit peu.
Oui, tout à fait. Mais... C'est comme ça que le voit ton personnage.
Ouais, mais toi, ton personnage le voit différemment parce que nous, on n'a pas encore, on sait pas qu'il y a des ammonites en dessous. À ce moment-là.
Non,
on ne sait même pas ce que font les ammonites. On n'en a jamais vu des ammonites.
Au moment où on enregistre le podcast, le personnage de Rome pense à la même chose que toi.
Absolument.
Oh,
d'accord.
Ouais.
Tout à fait.
Voilà,
je trouve que pour les auditeurs et auditrices, c'est plus facile de se représenter la chose comme ça, si tu veux.
Okay.
Vu que j'imagine que les auditeurs et auditrices sont plutôt des joueurs de Trip to Sky et donc ils connaissent les problématiques liées.
Les joueurs, là, enfin.
Oui,
les personnages, en fait, pensent que le sacrifice a marché.
Absolument.
C'est horrible, mais ça marche.
Absolument.
Et il y a en plus, à la fin de ce scénar, si mes souvenirs sont bons, un deuxième bienfait qui arrive. Une île arrive.
Voilà, alors ça...
On s'était arrêté là, non?
On s'était arrêté
on
là.
On avait dit dans les micros.
Je
ne
sais même pas si on avait dit
non,
dans les micros qu'il y avait effectivement une île qui était remontée.
C'est-à-dire
sous l'autre.
Au moment où ils sont en train de prier pour remercier Echo, « Oh, merci Echo, le beau temps revient !» Là, il y a un énorme... J'avais même fait trembler la table.
Ouais.
Et en fait, il y a une île qui est remontée.
Voilà, il y a un continent qui nous a percuté quoi, par
c'est
le dessous.
Par le dessous, ouais. Exactement. Sachant qu'on rappelle qu'il y a un des tabous qui est on ne parle pas des îles étrangères à l'île d'Yggdrasil.
Il n'existe pas de... On ne parle pas des îles qui viennent de l'État. On ne parle pas des îles qui viennent d'ailleurs.
Donc, il faut imaginer tout un peuple qui vient d'être percuté littéralement par un tabou.
Ouais, c'est ça.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est dans cette scène qui succède à l'émergence de cette autre île, la gênance de l'élite d'Yggdrasil qui ne sait pas trop comment en parler, quoi. En mode, il y a
ça.
Un truc...
C'est un bienfait d'Echo, on devrait pouvoir en parler, mais en fait, on ne peut pas. Et donc là, du coup, il y a
c'est
Bjorn,
génial.
Celui qui dirige le Haven, qui décide de faire... un conseil en fait avec les différents diplomates qui représentent les différentes tribus, les neuf tribus.
C'est ça.
Et donc du coup là, c'est la foire d'empoigne pour savoir si on peut y aller ou pas, qu'est-ce que c'est, etc.
Même on a le droit d'en parler.
Ouais, l'île est plus grande, hein, légèrement.
L'île est un peu plus
grande. En se penchant dans le vide, on peut voir.
L'île à laquelle ?
Celle
sur laquelle
du dessous.
Ah, elle est plus grande que celle sur laquelle
pas entièrement, on ne sait pas.
Elle est plus grande que le Haven.
Oui, que le Haven.
Voilà, mais elle n'est pas plus grande qu'Yggdrasil.
Bah, elle dépasse sur certains.
Elle dépasse sur certains, mais là, vous ne pouvez pas savoir.
Voilà, on ne sait pas quelle est sa superficie, mais.
Putain, j'avais pas cette représentation-là.
Si, parce que.
Vous imaginez une pièce de puzzle qui flotte dans les airs et une autre pièce de puzzle qui viendrait la percuter aléatoirement. Donc, il y a une partie qui.
Mais on envisage déjà le fait que les deux pièces, parce que tu parles d'un puzzle, on envisage déjà que le morceau d'île qui vient de percuter le morceau sur lequel on a toujours vécu et qui s'appelle Yggdrasil et qui est notre monde de natal,
qui est notre monde.
Voilà, c'est notre monde. On imagine qu'il y a possibilité de les faire s'emboîter.
C'est Romaric et Antoine qui pensent ça, pas les personnages.
Ah d'accord. Parce que
comment on pourrait avoir cette intuition-là, nous, les personnages ?
Les personnages, je croyais qu'elle nous avait décrit que la côte suivait la côte...
Oui, la côte suit, ouais, c'est vrai.
Je sais pas.
Ouais, mais là, c'était Flavie, c'était pas le MJ.
Non, c'est qu'en tant que MJ, elle
t'avais fait un petit dessin.
Ouais.
Alors, il y a ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'elle nous a dit, on lui a demandé à peu près quelle est la taille de l'île. Elle se dit, vous voyez le morceau qui manque là ? C'est à peu près de cette taille-là. Voilà exactement comment elle nous a décrit.
Exactement.
Et c'est là qu'on a commencé à se demander avec Antoine si par hasard, le morceau qui serait remonté, ce ne serait pas un morceau qui aurait commencé d'abord par tomber et se détacher d'Yggdrasil. Et ça, c'est intéressant déjà.
Mais pourquoi Echo le ferait remonter maintenant ?
C'est ça, bonne question.
Ah c'est à vous de me répondre pour l'instant.
Ou si ça se trouve, c'est nous qui sommes tombés. Quelque chose qui n'a pas été évoqué, ça.
Non, parce que c'est pas possible, ça se sent, parce que vous...
On aurait pu tomber légèrement dans la nuit, tu vois.
Non, mais on s'est rapproché des soleils, puisque la chaleur a augmenté.
Oui, c'est vrai.
On peut quand même un petit peu envisager ça, quand même, le fait qu'on soit remonté.
Exact.
D'ailleurs, je crois même que Flavie nous l'a suggéré par la présence plus proéminente des soleils.
C'était le printemps, clairement, le lendemain.
Et les nuages. Et puis c'est surtout, en plus, la neige fondait, vous aviez chaud pour la première fois depuis longtemps.
Voilà, et on était dans les nuages. Jusque-là, on se baladait dans la brume, la neige, etc. Et d'un coup, hop, les nuages sont en dessous et nous, on est au-dessus. Donc, on a la sensation que l'île est remontée. Tu voulais ajouter un truc ?
Non, mais on verra plus tard, effectivement, que cette île vient du bas.
Voilà, cette île vient du bas.
Et donc, du coup, là, c'est la foire d'empoigne au conseil. Et donc, ils se disent que, en fait, les seules personnes qui pourraient aller sur l'île, c'est des ailés. Donc vous deux, parce que vous êtes les deux seuls ailés à ce moment-là.
Ouais, parce qu'on peut s'envoler du bord de Yggdrasil pour
rejoindre. Déjà, est-ce qu'il faut y aller ?
Voilà. Et du coup, la question de dire si on doit y aller ou pas, ça va être aussi à vous de voir si vous vous sentez prêt. Donc les gens vont voter. C'est un vote. Vous allez accueillir chacun des personnes des différentes
tribus.
Antoine
est
ambassadeur.
Ambassadeur. Donc lui, il a le droit de vote. Moi, j'ai pas le droit. Ouais. Je suis qu'un garde du corps.
Mais du coup, Antoine va parler en fait avec les différents diplomates pour savoir qui est pour, qui est contre. Et puis ensuite, il va y avoir un vote. Et c'est incroyable ! Il y a 9 tribus, il y a 5 tribus pour et 4 tribus contre. C'est fou !
C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a 4 tribus contre et 4 tribus pour. Et donc, c'est le vote d'Antoine qui va faire la différence. C'est ça que tu veux dire.
Oui, c'est pour ça. Parce qu'il représente sa tribu. Oui.
En fait, il y a 9 tribus. Donc, Flavie, elle est maligne. C'est pour ça qu'elle t'a nommé ambassadeur et pas moi.
Oui, mais pourquoi ça serait moi
parce que tu serais penché dans la balance. Oui, alors...
Oui, c'est un point de vue.
Alors, c'est un point de vue. Mais disons que ta voix compte forcément.
L'idée, c'était de faire, en fait, ce que vous vouliez qu'il se passe. C'est-à-dire que, ça se trouve, vous n'aviez pas du tout envie d'aller visiter l'île. Auquel cas, ce qui se serait passé sur l'île, en fait, je l'aurais fait advenir ailleurs. Donc, l'idée, en fait, c'était qu'au moment où toi, tu dois voter, Antoine, c'est soit ex aequo, pour qu'en fait, ce soit ce que vous vouliez qu'il se passe.
Ex aequo.
Ah oui, parce que c'était pas un vote anonyme.
Non.
C'était à main levée autour d'une table.
Ouais.
C'était autour d'une table ou c'était, c'était sur l'esplanade du Haven?
Ouais, mais en cercle. Il n'y avait pas de table, mais en cercle.
Oui, c'est intéressant ce truc-là. Cette scène-là incroyable où tout le monde est rassemblé. Il y a eu une grande scène très, très agréable, très sympa. Et puis c'est rigolo de voir cette gênance parce que il y en a qui peuvent parler des tabous, les draki,
les dragons en fait, eux ils suivent pas les
tabous.
Ils suivent pas les tabous, notamment parce que c'est une tribu en fait en fait quand on veut plus de quelqu'un sur l'île, on l'envoie là-bas. C'est en gros, c'est la prison de l'île, on s'en fiche, on le met en exil chez les dragons. Donc les dragons, en fait, les tabous de l'île, tout ça, ils s'en foutent en fait, parce que de toute façon, ils ont été rejetés et puis ils vont avoir d'autres raisons dont il va vous parler après, de ne pas croire certains tabous.
Ouais, très très bien, très très bien.
Donc Drekki, lui, il dit « Oh, il va !» On va voir l'île.
C'est plus qu'un coup de pied dans la fourmilière. C'est une île qui rentre dans la fourmilière. Ok. Donc, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là, Antoine, sur cette scène, sur l'avant qu'on y aille, en fait, parce que finalement,
c'est-à-dire
tu as décidé.
Ce qui fait pencher. Alors, les arguments contre.
Peut-être.
Ça pourrait être important d'en parler. Les gens disent qu'il faut pas y aller parce que.
Parce qu'il y a eu des îles. On a déjà été en contact avec des îles extérieures et qui ont attaqué du coup la tribu des Pégases. Et que c'est en partie pour ça que du coup les Pégases et les Faucons se sont rabibochés à l'époque. On construit le Bifrost pour pouvoir faire partir des armes et tout ça pour combattre en fait des éléments qui venaient de l'extérieur qui les ont attaqués, mais on n'arrive pas à en savoir plus.
On sait qu'il y a des virus, on sait qu'il y a des, enfin, que ça se prend sous la forme de maladies, de malformations, de. Il y a quelque chose de mystique. C'est pas uniquement des attaques physiques des guerriers.
Ouais. Et puis il y a aussi beaucoup de superstitions.
Voilà.
Mais a posteriori, on découvrira surtout que certains chefs de tribu devaient en savoir un peu plus, en vérité.
Un peu plus sur ce qui se trame, oui.
Pourquoi ?
Bah, par rapport à ce qu'on a découvert et ce qui a été raconté ensuite, parce qu'on va être accompagné.
Les arguments pour,
bon, bah, ce serait une récompense d'écho. Enfin,
ouais,
c'est un
ça.
Signe,
ouais.
C'est pas pour rien. Puis de toute façon, si on n'y va pas maintenant... Comment pourrait-on empêcher tout Yggdrasil d'aller voir en dessous?
Puis l'idée, c'est d'aller vérifier, du coup, qu'on envoie deux ailés, d'aller vérifier si c'est dangereux.
Voilà.
Et puis d'écarter tout danger, et puis voilà, quoi. Et que ça reste aussi sous le contrôle du Haven.
Voilà, on y va plus en tant qu'explorateur, mais on n'y va pas pour planter un drapeau en disant, voilà, on peut y habiter, c'est chez nous.
Et du coup, il va y avoir le Drekki, qui est le représentant de l'île des dragons. Qui demande en fait à superviser.
Attends, Drekki, c'est son nom ou c'est un titre?
C'est le titre.
Ah, ok, je croyais qu'il s'appelait Drekki.
Non, c'est le Drekki.
Ok,
ouais.
Le Drekki, ok, c'est un chef.
Il vous a pas encore dit son nom.
D'accord, non, mais c'est marrant parce que moi, depuis le début, je l'appelle Drekki en fait. En bêtement.
Que tu l'appelles roi.
Ok. Ouais.
Hey, prince, viens.
Ok.
Sachant que le Drekki, en plus, c'est un truc démocratique. Hein. Chez les dragons, c'est vraiment...
Ah, c'est comme le Khan chez les Mongols,
ouais.
Quoi.
Ouais.
Okay,
Drekki, ok. Donc ça, c'est les personnes... Tu es en train de citer les personnes qui vont nous accompagner,
ouais,
c'est ça
Drekki,
et qui nous accompagne d'autres?
Je me tourne...
La fille du... J'ai plus les noms, là. J'ai pas mon carnet.
La fille du Midain.
Midain.
Pardon,
Midain.
C'est dur, je suis
désolé. Il s'appelle Aldar.
Aldar. Et donc c'est le Midain.
Donc deux ailés, deux humains sans ailes.
Et donc du coup qui vont
vous accompagner.
Qui vont vous accompagner.
Alors pourquoi est-ce que... Alors moi déjà j'ai réussi à faire passer l'idée auprès du conseil que on y va en tant que entité indépendante de quelques tribus que ce soit.
Alors,
c'est-à-dire que c'est pas une délégation du Haven ou une délégation des corbeaux. Je m'inspire en cela, moi, en tant que joueur, pour créer ce truc de la loi qui est censée régir l'espace. C'est-à-dire dire, bah voilà, ce sont des territoires qui n'appartiennent à personne, donc ils n'appartiendront à personne. Et tous les objets qui sont sur cette île n'appartiennent à personne. C'est le même statut que la Lune, les astéroïdes, aujourd'hui, c'est censé être le même statut que, bien entendu, la loi de l'espace évolue ces dernières années. Mais voilà, à la base, c'était ça. C'était censé être un bien commun de l'humanité. Donc un commun. C'est comme ça qu'on appelle ça en droit. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit un commun et que du coup notre petite expédition ne doive répondre à personne. ça m'arrange à titre personnel en tant que personnage parce que n'ayant jamais eu cette sensation d'appartenance aux chouettes, ça me permet de me détacher. J'ai pris un gros risque, Antoine. Je sais pas si t'as remarqué, mais parce que je sais pas si on l'a joué en solo ou si on l'a joué avec Antoine. Je ne sais plus si on l'a... Mais je me suis quand même mis en porte-à-faux vis-à-vis de mon propre clan. C'est-à-dire que mon propre clan m'a dit non, non, tout ce que tu vas ramener, c'est pour nous.
Et moi, ça, on l'a fait chacun de notre côté.
Et tu l'as fait aussi, ça ?
J'ai pas vécu les mêmes scènes que toi, mais avec d'autres protagonistes, oui, j'ai eu des échanges. Il y a eu peut-être des deals, j'en sais rien.
Mais donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà, on se met au-dessus de la mêlée. C'est intéressant pour des ailés. Hein. On se met un peu au-dessus du truc en disant, ou à côté, à part. Et donc, évidemment, rien de ce qu'on va ramasser sur l'île ne va nous appartenir.
De toute façon, vous n'êtes pas censé ramasser quoi ramasser que ce soit. Vous n'êtes censé rien ramener.
Oui. Sauf que, en fait, foreshadowing, on sait depuis le début, parce que Flavie nous fait faire des rêves étranges pendant la nuit, que sur l'île en dessous, il y a nos fameuses épées. Alors, si vous êtes joueur. Qui nous appelle. Donc, on sait qu'on va les ramasser et que celles-là, on va tout faire pour qu'elles nous appartiennent.
Et surtout, moi, je suis arrangé au moment où vous dites Ouais, on ramènera rien. Il y a les murmures de vos épées qui recommencent. Et on est là, viens me chercher. Et là, t'es là, bon, on va peut-être ramener un truc en fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on ramène plein de trucs. Alors, ça, c'est bon. Voilà, on va raconter ce qui va se passer. Évidemment, rien ne se passe comme prévu.
Alors, pourquoi on se fait accompagner par un Dricky
Eh bien, parce que lui refuse, en fait, est en porte-à-faux avec le Haven, en fait, et notamment Bjorn, avec qui il est en. En fait, les dragons sont en rébellion, plus ou moins. Vous comprenez ça? Avec avec les autres clans.
Le Haven étant un peu l'entité dirigeante de l'unité de tous les clans.
Et donc Dricky, il a pas confiance en vous. Donc le Dricky.
Et c'est son droit.
Et c'est son droit. Et donc il dit, moi je veux être là.
Oui, oui.
Non mais il n'a pas d'elle, mais.
Donc il dit que lui veut être là. Et sachant qu'en plus. Là, il n'y a pas d'élé avec lui, mais sa fille adoptive, en fait, c'est Lélé. C'est Géraldine. C'est Lélé qui va. Donc, en fait, lui, il est un peu vénère. Si, t'inquiète. Lui, il est un peu vénère parce qu'il se dit, mais en fait, elle serait là. Il y a tout un truc qui fait qu'elle n'est pas là pour une bonne raison.
D'accord.
Et en fait, si elle était là, en fait, elle serait allée en dessous.
Il y a ta pizza qui arrive. Attends, on fait une pause pizza. Ouais. Et puis, on reprend.
Oui, vas-y, va chercher ta pizza.
De quoi va chercher, finis ta phrase. Bon. On peut ajouter, tant qu'Antoine va chercher sa pizza, qu'une des raisons aussi pour lesquelles il y a la corbeau et le dragon, c'est qu'il y en a une, la corbeau, qui a voté contre l'exploration.
Ouais. Et un qui a voté pour.
Et le dragon qui a voté pour.
Et en plus, leurs tribus sont plus ou moins opposées parce que les corbeaux sont très attachés au Haven.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça.
Et du coup, Bjorn, en fait, propose que justement ce soit le Midain qui y aille. Il dit non, ce sera ma fille, puisque moi, je ne peux pas prendre ce risque. En fait.
Parce que moi, je me souviens... Ah, oui,
parce
oui.
qu'en fait, elle représente
Elle représente son père,
exactement.
En fait.
Exactement.
Ok, d'accord. Parce que moi, je me souviens que quand les chouettes donc, me demandent d'embarquer dans cette aventure et d'accompagner leur ambassadeur, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs... je me souviens plus comment il s'appelle, mais peu importe. Et donc ils me demandent d'accompagner l'ambassadeur. Ils me disent aussi que les corbeaux se rapprochent du Haven et que ça les inquiète,
ouais.
Parce que eux, ils ont toujours été proches.
Ils ont toujours été.
Voilà, ils ont toujours été très.
Ils ont toujours léché les bottes du Haven.
Du Haven, voilà, on va dire ça comme ça. Ils ont toujours été un petit peu.
Ils respectent à fond les tabous. Enfin, les plus drastiques dans l'observation des lois.
C'est ça. Et donc, au final.
Jusqu'à avoir monté des castes, etc.
Ouais, ok. Donc, au final, voilà, nous voilà un groupe de trois entités, mais quatre personnes. Donc, les trois entités, c'est les ailés que nous sommes, à savoir Antoine et moi-même, donc Albéric et Mada. Et de l'autre, donc, la corbeau qui a voté contre et qui représente les corbeaux et donc indirectement un peu aussi le Haven. Et Dreki qui, lui, représente carrément tous ceux qui sont contre, en fait, le Haven et même les autres
tribus.
Puis
lui, il est contre aussi les sacrifices, etc. Il remet tout en question, en fait, le Dreki des dragons, en fait.
Et
lui, il dit qu'à un moment, il va falloir secouer tout ça.
Ouais.
Et puis moi, Albéric, j'ai des gros doutes sur ça aussi, sur les sacrifices. C'est la première fois que j'ai assisté à ça et il y a quelque chose qui cloche.
Ouais. T'étais hyper choqué dans mes
souvenirs. Toi, t'étais choqué, mais pourquoi il y a quelque chose qui cloche ?
La drogue, l'exaltation, les yeux, dans les yeux des gens, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, il y a aussi de la peur.
Ouais, ok. Oui, donc pour toi... Pour toi, la drogue et tout ça, c'est pas juste pour faire passer la pilule. Il y a un rituel, enfin, il y a un truc un peu bizarre dans le rituel même.
Ouais, il y a un truc qui cloche, mais on va voir ensuite.
Il y a un truc qui cloche.
Il y a des trucs qui clochent, ouais.
Donc, on décide de, en tout cas de déployer nos ailes, d'emmener Dreki. Donc, tu te charges d'emmener...
Aldar.
Aldar, puisque tu es très proche d'elle, n'est-ce pas?
Ouais, je vais essayer. Mais... bah, sur ce moment-là, oui, je suis très proche d'elle. Elle est sur mon dos. Donc... Ah non, même pas. Je crois que je la tiens sur mon ventre en singe, là, comme les singes. En cochon pendu, quoi. Okay.
Mais avant ça, avant d'embarquer... ou avant qu'elle embarque.
Oui, oui. Mais pourquoi elle vient d'ailleurs? Elle vient parce qu'elle veut
elle
me protéger.
Elle représente le Midaï. Le Midaï.
Regarde l'autre comme il tire la...
Et aussi parce qu'elle était contre. Et comme
moi, elle m'a dit que c'était pour moi hein, qu'elle
oui,
venait.
Oui, elle te dit que c'est pour toi, c'est vrai.
Oh, elle est trop mignon.
Non, mais c'est mignon.
Non, mais tu sais qu'elle représente quelqu'un. Elle
oui, bah oui, j'imagine. Oui, oui.
Mais c'était pour
elle
n'est
pas là
pour
que
lui.
Pour toi, Antoine. Donc voilà, donc très, très rigolo. Les couples se forment. Mada et Dreki, peut-être. Non. Moi, je me saisis de Dreki et je l'emmène sur l'île. Et la première remarque qu'on fait, donc, c'est d'abord l'île s'est encastrée dans l'autre, mais. Comment se fait-il qu'on puisse marcher sur cette île? C'est parce qu'il y a des espèces de d'amas rocheux ou peut-être des tours. Et même, on envisage même qu'il puisse s'agir d'anciennes habitations qui se sont...
Tu veux dire comment ça se fait qu'il y ait l'espace pour se tenir debout?
Voilà, c'est ça. Voilà, okay. Entre les deux îles. Parce qu'en fait, il y a des
oui,
amas
normalement,
rocheux
ça devrait être
tours.
Une crêpe.
C'est plus que des amas rocheux. Qu'en fait, quand je vous les décris, je décris des sortes d'immenses amas de roches rectilignes avec des sortes de
tout
plaques
droit.
De métal. En gros, c'est des anciens...
C'est des anciens buildings. C'est des buildings, dirait, en fait. On dirait des buildings. Ou des
et
bâtiments.
En fait, qu'on fait qui forment comme des potes, comme des sortes d'immenses colonnes, en fait, ouais. Qui retiennent, qui empêchent du coup l'île de s'écraser sur
exactement.
L'autre.
Exactement. Et là, en fait, moi, il me vient tout de suite en tête dans la description que tu nous fais avec ce froid, cette neige, ces bâtiments en ruine et tout, une vision très post-apocalyptique.
Oui, c'est un monde glacé, hein, mais qui
oui.
est en train de fondre.
Oui.
Donc, ce qui prouve que ça vient de très, très bas.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, sous la glace, on fait des découvertes macabres.
Il y a des charniers immenses. Et en fait, certains... la majorité des gens que vous trouvez, en fait, ils sont habillés comme les gens de l'île, en fait. Donc, en fait, les sacrifices que vous faites depuis des années du Haven, en fait, ils ont fini là.
Voilà.
Une partie a fini là. Et vous allez aussi trouver, en fait, d'autres types de charniers plus protégés qui, en fait, eux, c'est des personnes qui ressemblent, qui ne sont pas habillées comme vous et qui ont l'air d'être très abîmées, mais mi-métal, mi-humain.
Ok.
Si vous vous souvenez bien.
Ouais, ouais, tout à fait. Je me souviens très, très bien. T'inquiète, je te suis à la lettre. Donc, une cité, vraisemblablement.
Non, attends, là, ça prouve déjà que si l'île est remontée, c'est pas une grâce d'écho. C'est pas la grâce d'écho.
Et pourquoi c'est là que le Dreki.
Tous les sacrifices ont été vains. Les gens sont là. Ils n'ont pas été donnés à Echo dans le ciel, à la lune.
Au contraire, tu peux envisager le fait que justement c'est parce qu'ils sont là que l'île est remontée.
Bah non, puisque en fait normalement ils sont censés disparaître vers Echo et là ils n'ont pas disparu. Et justement il y a le Dreki qui commence à s'énerver, qui fait je le savais. Et à un moment on finit par dire mais vous saviez quoi? Et à ce moment-là il répond pas tout de suite parce que vous vous faites attaquer.
Rien n'explique pourquoi l'île est remontée. Techniquement, je veux dire, hors roleplay et tout ça.
Hors roleplay, tant que vous
savez
pas.
Qu'est-ce qui justifie ce truc?
Ok, c'est comme ça que vous envisagez le truc. Okay.
Moi, c'est une perte totale, pas de foi, mais en tout cas du dogme. Tu vois, j'ai plus confiance là. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire là? Donc en fait, notre île, elle remonte chaque année, certes, parce que des gens se sacrifient pour Echo, mais... Un nouveau fait est débloqué, là, on découvre qu'ils ne sont pas donnés à Echo.
Ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais. Ah,
donc
oui,
on a
d'accord.
quand même la récompense du printemps fait... chaque année, mais...
Est-ce que le fait de voir leur corps...
Le concept, c'était de sauter à la Lune.
Bah oui, et d'être absorbé par la Lune, tu vois, d'aller vers
Echo.
Moi,
j'avais une vision pas du tout matérialiste du sacrifice. Pour moi, c'est l'âme, en fait, qu'elle est à la Lune.
Ah, ils auraient pu être brûlés sur un bûcher, c'était pareil.
Voilà, c'est ça.
Ok,
ouais, exactement.
D'accord. Ah non, moi, c'était vraiment le concept d'aller à la Lune.
Parce que même, il y a Aldar qui commence à craquer en mode « Mais du coup, ils sont là, mais pourquoi ils sont là? Ils ne devraient pas être ici, qu'est-ce qui se passe ?»
Ah oui, elle, ça la marque, oui. Ok, oui, logique. Ok, logique. Excuse-moi, j'avais une vision. En fait, mais ça c'est... Alors ça, c'est... Là, on aborde une difficulté de jouer à Prequel to Sky, donc Trip to Fly. C'est que c'est vrai que c'est difficile en tant que joueur de... D'abord, bon, faire l'effort pour son personnage de ne pas savoir, ça c'est facile. Tout le monde est capable de faire semblant de ne pas savoir ce qu'il sait. Je veux dire, c'est très simple. Mais ce qui est compliqué, c'est que tu vois, là c'était un impensé. C'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude que les âmes deviennent des ammonites, remontent, etc., qu'en fait, pour moi, c'était vraiment... si, justement, c'est parce qu'ils sont morts là, que les âmes sont parties à la Lune...
C'est pour ça que ça va être rigolo aussi que vous jouiez avec Géraldine, parce que Géraldine, elle n'a pas fait tout ce
qu'elle a fait. Elle n'a pas fait ça, voilà.
Mais pour moi, pour qu'il y ait des ammonites, il faut que tu tombes à la Lune. Ouais. Si ton corps est stoppé sur une île, il n'y a pas d'ammonites.
Ouais. Pour moi aussi, en fait.
Appelle l'auteur, Romaric, j'ai son numéro. J'ai son numéro.
Ah oui, non, mais c'est pas du tout ça. Hein.
Moi j'étais comme Antoine, j'étais persuadée qu'il fallait toucher la Lune pour devenir une ammonite.
Non, c'est seules les âmes gagnent la Lune. Les corps, on s'en fout. Ah, vous saviez pas. Ah, toi, tu savais pas ça. Ah,
ouais, d'accord.
C'est pas clair. Hein.
J'ai relu, moi, en plus. Donc,
Ok, bon, bah.
J'ai relu, moi, les livres. Alors,
j'ai relu une fois.
Je pense que c'est pas écrit.
Deux fois même.
Je pense que c'est juste pas écrit, en fait, et que chacun imagine un peu ce qu'il veut. Mais là, je dis ce que j'imagine, mais si c'est pas écrit, il n'y a pas de
Dans tous les cas, on peut considérer que les gens, là, à ce moment-là, considèrent qu'il faut que la Lune.
Tout ce qui compte, c'est comment ils réagissent. Mais ce que je voulais dire, c'était juste que c'était parfois difficile de faire la part des choses, de dire je ne sais pas que, parce que même dans la manière.
Mais ce qui explique pourquoi on connaît pas les ammonites. Aussi.
Voilà,
si tous ceux qui meurent ne touchent pas la Lune, c'est parce qu'il aurait pu avoir des ammonites.
Il y a les Svartals, des mouettes qui sont des artisans et notamment des artisans de petites ammonites, mais il n'y en a pas énormément en fait. Et donc quand il y en a, c'est un truc de fou.
Voilà.
Il y a très très peu de trucs volants parce que en plus c'est pas comme on en a très peu en fait c'est genre des mini embarcations donc.
Alors quand Flavie dit volant, comprendre ascendant. C'est un objet qui monte vers le soleil et non pas qui tombe vers la Lune.
Donc ouais. Donc là à ce moment-là vous êtes attaqué par des animaux effroyablement
mutilés.
Et notamment un grand loup.
Alors ça deuxième tabou.
Mais ils sont mutilés, pardon.
Vas-y.
Mutilé, mais un peu comme intoxiqué par du métal,
intoxiqué
non?
Il y a
un
truc un peu phyrexiant, en fait, ils ont été pris par des sortes... Alors, nous, en tant qu'amateurs de science-fiction, dans la vraie vie, on sait qu'en gros, c'est des...
Cyborgs.
C'est des sortes de trucs cyborgs ou qu'ils ont été pris par de la...
Des nanites.
Des nanomachines qui les auraient détruites. Mais, et donc, qui les maintient en vie tout en... alors qu'ils sont à moitié morts. Enfin, c'est
ça,
horrible.
C'est une nécrose de nanotechnologie.
Ouais. Et ils sont dirigés par le loup des loups, qui s'appelle Ranveg, qui est en gros la mère des loups, et qui elle aussi est atteinte de ce mal-là, et qui vous demande en fait de la tuer. Elle appelle ça le poison de métal. Ouais. Elle vous demande en fait de les tuer, de mettre un terme à leur agonie. Et en fait, elle va commencer à vous expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, le Dreki va aller dans son sens, parce que lui, il est au courant de ce qui se passe aussi.
Alors, et c'est qu'est-ce qui se passe?
C'est que dans des temps immémoriaux, parce que on peut pas vraiment savoir à cette époque-là, il y avait pas 9 tribus, il y en avait 11.
Ah oui.
Et il y a eu une immense guerre, et les ours, les loups,
ouais,
et les dragons en fait étaient ensemble. Et en fait, les 9 tribus ont fait chuter l'espace de l'île. Des ours et des loups, d'où le troisième tabou, les ours et les loups viendront reprendre leur part.
C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a là, il y a déjà un deuxième tabou qui saute, qui est un deuxième tabou qui saute pour nous, mais qui est le troisième tabou d'Yggdrasil, c'est ne parle pas des ours et des loups. Et en fait, les ours et les loups, on comprend que c'est d'anciennes tribus. Tu m'arrêtes, Antoine, si je dis une bêtise.
C'est ça, mais on se rend compte que tous les tabous sont orientés vers... ce crime de guerre, en fait.
Vers un crime de guerre.
Ouais.
C'est ça, exactement.
Et Dreki, là, il explique
dont on ne veut pas parler.
Ouais. Et Dreki, il explique qu'en fait, il a voulu venir avec vous pour trouver une preuve qui montrera la vérité, en fait, aux tribus, et parce qu'il veut arrêter les tabous et tout remettre à plat et avoir le droit de partir pour aller trouver des îles. Et bref, il veut la liberté, quoi. Il veut qu'on arrête les sacrifices, etc. Et il veut que ça s'arrête, tout ça. Parce que eux, ils n'ont jamais oublié.
Parce qu'eux, ils ont le droit de parler.
Bah oui,
des
et
anciens.
Parce qu'aussi, ils étaient du côté des ours et des.
Mais comment ça se fait qu'ils aient eu le droit de rester parmi les clans normaux, les dragons, du coup? Ils ont eu du. Voilà.
Ça, ils ne savent pas trop et ça reste quand même plus loin. Moi, je sais, mais ça fera partie de la suite.
Ouais, ok. C'est très étonnant, ça. Mais oui. Bon, ok. En tout cas, ce qui vient corroborer aussi, dans ma tête à moi, l'idée qu'un morceau de l'île se soit arraché. Voilà. Ah, mais oui, en fait, ça y est, j'ai pigé un truc. Je viens de comprendre quelque chose. Ben, je sais pourquoi il y a un morceau de l'île qui s'est attaché, détaché. C'est qu'en fait, ils disposaient de technologies qu'on n'a plus. Et en fait, parce qu'on comprend rapidement, c'est qu'on comprend rapidement qu'on est dans une cité futuriste,
ouais.
Et qui a été, donc on est dans du post-apo, une cité futuriste. Ça me fait beaucoup penser à New York.
Ils voulaient exactement. Ouais. Bah, il y a une raison. C'est un livre qui m'a beaucoup choquée quand j'étais jeune, New York. Et du coup, on est clairement là-dedans. La personne qui découvre en fait une ville post-apo.
Parce que dis-moi si je me trompe, Flavie, mais en gros, quand on essaye de dater, on comprend qu'il y a eu un crime,
ouais.
Et les tabous sont nés de ça. On essaye de dater le crime, et on se rend compte qu'en fait, le crime est tellement lointain...
Que vous pouvez pas.
Que en fait, c'était à une époque où les technologies étaient bien plus avancées que la nôtre.
Ouais.
C'est bien ça.
Ouais, en fait, vous trouvez un mythe de l'Atlantide.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et vous trouvez en fait un endroit, et justement, ça, ce sera après, mais vous allez en savoir plus ensuite, en avançant dans le scénar, sur les technologies. À ce moment-là, il y a un moment où du coup, les épées vous rappellent, et vous arrivez dans une sorte de sanctuaire. Et vous découvrez vos épées.
Et on trouve enfin nos épées. Alors, pas nos épées uniquement. Il y a 3 épées. Et on est 2 PJ. Et là, on se dit, mince. Et ça, on est d'accord que tu n'avais pas forcément prévu d'inclure. À ce moment-là, tu n'as pas forcément prévu d'inclure Géraldine.
Si, à ce moment-là, je lui ai déjà demandé.
Ok. Ah, c'est génial. Foreshadowing de ouf. Putain, on est... Et toi, tu trouves rien de mieux que de prendre une épée de plus, toi, Antoine? Comme ça, tranquillos. Tu dis, ouais, moi j'ai une épée, oui, c'est bien, mais 2 ce sont...
Bah, c'est stylé déjà, parce que c'est interdit. Et
l'épée va se défendre.
L'épée va se défendre, donc c'est encore plus stylé. Et en plus, ça permet de créer du lien avec son futur possesseur, ou sa future.
Et à ce moment-là, toi, tu as aussi une vision, Mada. Les visions des yeux jaunes qui crient, l'île est en train de sombrer, nous devons leur dire, et tu comprends que c'est ton père qui est en train de brûler. Et c'est ton...
Ton père à qui?
Oui, t'as dit Mada.
Mais t'as dit Mada.
Ah oui.
Moi, je suis Albéric.
Ouais, toi. Ouais.
Ouais, donc, alors, attends. Du coup, je comprends pas. Qui a eu cette vision?
Vision des yeux jaunes pour Mada. Donc, c'est toi, From, t'as eu une vision. L'île est en train de sombrer, nous devons leur dire. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sais... Tu vois quelqu'un qui est en train de brûler.
Ok.
L'épée aussi que t'as pris, Albéric, elle est pas seulement, c'est une épée qui a la fois qui a double forme. Elle est une épée dite ordinaire à la base et au bout en fait elle forme une spirale.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc dans Trip to Sky et donc dans Trip to Fly également, chaque joueur joueuse a un lien spécial, enfin chaque personnage pardon, chaque héros héroïne a un lien spécial avec une épée dont il a et dont il partage la destinée. Dans Trip to Sky, on commence avec cette épée. Dans Trip to Fly, on ne commence pas avec l'épée. On connaît les murmures de l'épée, c'est-à-dire son destin, hein, l'équivalent. Mais on n'a pas encore l'épée en main. Et on va la trouver au cours de ce deuxième, troisième scénario. Deuxième ou troisième, parce que selon qu'on compte les scénars solo ou pas, voilà. Et du coup, voilà, nous voilà en position des épées et de leur murmure. Et du coup, ton murmure, Antoine, c'est quoi, tu te souviens?
Que j'ai créé?
Ouais, je me souviens plus de mon
murmure. Un truc genre, je me créerai mon propre chemin, un truc comme ça.
Ouais, tu mèneras les hommes au-delà des frontières du monde que nous lui connaissons.
Ah non, alors c'était pas mon...
Non,
je confonds avec mon autre truc.
Ouais, mais en tout cas...
En haut de l'affiche, c'est quoi?
Je sais plus, attends, j'ai plus les fiches sur moi.
Ouais, moi non plus, elles sont sur la table, je vais les chercher.
Ah oui, il y a Murmure et Destinée. Mmh. Ok.
C'est pas les mêmes choses. Mmh. Et Murmure, vous les avez pas encore, si mes souvenirs sont bons.
Ah, attends, vas-y, raconte ça.
Ouais, ne confondez pas Murmure et Destinée. La Destinée, c'est pas le Murmure. Le Murmure, vous n'avez encore rien décrit à cet endroit-là, si mes souvenirs sont bons.
Exact.
Je me suis
planté alors, du coup.
Ouais, parce que les Murmures, vous les avez pas encore.
Ok.
C'est un truc qui est sur la feuille, mais qui est pas encore arrivé.
Moi, je sais que mon destin, il colle le destiné de l'épée. Ah oui, donc la destinée, c'est la destinée.
Il y a écrit arme.
C'est ça. Tu vois, c'est génial. Le mien, c'est celui dont l'imposture réunira les 7 en 1. C'est marrant comme l'imposture. Alors bon, moi,
c'est
je
assez
sais que
flou pour pouvoir permettre plein de choses.
Moi, je sais que je suis pas le fils de mon père. Enfin, que mon père n'est pas mon vrai père. Donc, c'est une imposture en un sens. Je sais aussi que ma destinée, parce que vous savez que j'appartiens au clan des chouettes et que du coup, ma destinée est gravée sur mon front. Que ma destinée, en fait, ne correspond pas à ma vraie destinée. En tant que joueur, je le sais, mais mon personnage ne le sait pas encore. Et donc, du coup, je suis un imposteur. En un sens, pour les chouettes, je suis un imposteur. Donc, ça, c'est marrant. Et réunira les 7 en 1. Donc, s'il y a 9 tribus sur Yggdrasil. Ça, c'est curieux aussi. Pourquoi les 7?
Il n'y a pas 7 castes chez les chouettes?
Non, il y en a... Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas.
T'as jamais réfléchi à ça?
Non. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'on récupère les épées, les destinées, donc j'avais confondu avec les murmures tout à l'heure, mais c'est bien les destinées, se dessinent et commencent à devenir plus importantes. Parce que du coup, bah, maintenant qu'on a les épées, on sait qu'on est destiné à réaliser la destinée de l'arme, quoi. Et donc le murmure, c'est quoi alors? On ne sait pas encore.
Non.
Ok.
Non, ça fait partie des futurs secrets.
Ok, d'accord, très bien. Donc l'épée, c'est quelque chose de très important dans Trip to Sky parce que c'est l'épée qui va vous permettre, donc si vous mobilisez l'épée au cours d'une description pour détruire, pour solutionner un problème posé par le MJ, vous avez le droit de prendre le fameux D6. Il n'y en a qu'un seul.
D10.
D10, pardon. Le D10 au milieu du bol. Donc le D le plus fort. Donc c'est évidemment un élément très important du gameplay du jeu.
Et plus tard, les épées, elles vont continuer de nous parler ou pas, Flavie?
Oui.
Ok. Moi, c'est ça que j'aime bien, à la différence de Trip to Sky, c'est que les épées, c'est des stands, comme dans JoJo's, tu vois, c'est les stands. Ça, j'aime bien ce délire de, tu vois, un objet destiné à être lié à toi.
Et qui te parle.
Jusqu'à la mort et
alors,
qui te parle.
Alors moi, je kiffe, je sais plus d'où ça venait,
Bloodlust.
Ouais, en fait, que les épées, il y avait dedans les âmes. Ouais, Bloodlust.
C'est dans Bloodlust de Croc. Donc,
les âmes, âmes d'anciens combattants, etc. Et clairement, moi, je tripe là-dessus, en fait, avec ces épées-là. C'est-à-dire qu'avant, dans les épées-là, bah, y a des trucs.
C'est la Soul River, quoi.
Alors, exactement.
Ouais, moi, Bloodlust, c'était un jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de Croc, en fait. Clairement, c'est un de ceux qui me plaisent le plus, en tout cas. Il a créé plein de trucs super, notamment très punk et tout ça. Mais dans Bloodlust, ce que je trouve génial, c'est qu'il inverse le rapport de l'épée au porteur. C'est-à-dire que c'est pas le porteur qui a une épée, c'est l'épée qui a un porteur. Et dans le jeu, on est même amené plus à jouer la destinée de l'épée que la destinée des porteurs. Ce qui fait effectivement beaucoup penser à Soul River. Ou à Legacy of Kain, puisque le jeu, en fait, le seul héros commun à toute la saga Soul River, c'est effectivement l'épée. Et d'ailleurs, le nom, la River, en fait, c'est le nom d'une épée et c'est elle qui va donner le nom à tous les jeux. Donc tout est lié, effectivement.
Ouais,
et on trouve ce truc-là aussi dans Sens Néant.
Et
juste
vos
finir.
Épées ont toutes un destin. Un destin, voilà. Un destin, et donc elles vont vous pousser à accomplir.
Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Mais ça, le destin, on l'a.
Ah, c'est ta destinée.
Ah oui, donc c'est à côté de arme, 2 points.
Mais le truc de l'épée qui parle...
Il
n'y
a pas de destinée, nous, on n'a pas de destinée.
Je ne sais plus comment c'était.
Si, c'est écrit
moi, c'est
arme.
Celui dont le destin est d'ouvrir la porte.
C'est ça.
Mais c'est à côté de arme, 2 points.
Sachant que mon objectif pour Echo, c'est trouver mon chemin et le dépasser. J'espère qu'il y aura une porte au bout du chemin.
Ouais. Donc, on a enfin récupéré
et juste,
nos épées.
Du coup, la... Ouais, vous verrez ça avec Géraldine et vous dira c'est quoi sa destinée.
Et ok. Oh, non, on veut pas trop en savoir sur Géraldine parce qu'on l'a pas encore rencontrée. On sait même pas ce qu'elle joue, on sait juste qu'on a son épée. Enfin, qu'Antoine.
Oui, et elle aussi, elle le sait puisque son épée lui a bien crié: viens me chercher, il m'a prise.
Ils sont en train de me capturer.
Bah, elle a failli me tuer, son épée. Hein.
Bah, ouais, elle était pas contente que tu l'aies prise.
Je crois qu'elle m'a pas même mis KO ou un truc
comme ça. Elle t'a mis KO et en fait, jusqu'à ce que tu dises ok, je ne t'utilise plus. Je te porte pour te rendre à ton.
C'était ça. C'est la promesse que je ne la touche plus.
Je ne te touche plus, je te ramène à ton porteur, juste.
très bien. Donc ensuite, pour en finir avec
coup,
la fiction, on...
Et du coup, Dreki, à ce moment-là, lâche le morceau. L'île est en train de tomber, et c'est pour trouver, je vous l'ai déjà dit, c'est pour trouver une preuve qu'il est parti pour... parce qu'il en a ras-le-bol des tabous, et donc il veut continuer, lui, à avancer, parce qu'à ce moment-là, vous dites, bah là, c'est peut-être dangereux, on le sait, il faut partir, et il dit, non, il nous faut une preuve, il faut qu'on puisse ramener quelque chose de clair qui dit qu'il faut arrêter tout ça, donc vous allez continuer à avancer sur l'île, jusqu'à ce que vous arriviez à une sorte d'immense, ce que vous appelez un temple. Voilà.
Un bâtiment spécial,
immense.
Quoi.
Ouais. Et
parce qu'on marche dans la neige. Hein.
Ouais.
Faut le rappeler. Le blizzard, les torches enflammées.
Donc il y a des robots qui vous attaquent, vous savez pas trop ce que c'est, vous les appelez les animaux de métal.
Ouais.
Et puis jusqu'au moment où vous arrivez dans ce temple, et là il y a des trois énormes statues qui sont les statues des trois dieux, à savoir Cèdre, Alogi et Ephrar. Et donc Echo n'est pas représenté, et il y a des bas-reliefs, et vous allez décrypter les bas-reliefs qui décrivent l'histoire de trois dieux et d'une menace. Et vous comprenez qu'il y a des êtres ailés à l'époque qui servaient la menace, mais qui ont été rappelés par les hommes qui se dévoyaient dans la magie. Et du coup, mais les hommes, la magie, ça n'a pas suffi. Et donc les hommes se sont dévoyés dans la technologie. Et du coup, Cèdre, à ce moment-là, propose de leur accorder des pouvoirs pour guider les hommes et faire attention à la menace.
Okay.
Et vous comprenez qu'il s'est passé ça, et qu'en fait, Cèdre leur a proposé d'immenses pouvoirs, mais que ça n'a pas suffi, en fait, ils ont continué à se dévoyer dans la technologie.
Alors Cèdre, donc, on rappelle, c'est la magie, le langage, la communication, la poésie, l'étrange, la mort...
Les actes magiques.
Le matin, effectivement, c'est le matin.
C'est préside au bizarre, c'est la déesse des morts.
Mmh. Ok. C'est bizarre. Bon, on comprend pas tout encore. Hein. C'est normal.
Bah heureusement.
Si vous êtes largué, nous aussi. Hein. Et on monte quand même. Il faut dire qu'on monte au-delà des trois statues. On réussit à.
Ouais. Bah vous trouvez un passage au fur et à mesure. Et là, vous allez rencontrer C21C102 que vous allez rebaptiser Robotique,
ouais.
Qui est un androïde qui compile les informations. Et en fait, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et il va vous répondre.
Alors c'est génial parce que nous, on lui pose des questions à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de gens qui n'ont pas toutes les technologies et toute la compréhension de ce qui se passe. Et lui, il nous fait des réponses auxquelles on ne comprend absolument rien. En fait. Alors il a toutes les réponses.
Il vous dit que la ville s'appelle l'Aube.
Nous, on n'a pas les questions.
Mais quand il vous répond, il vous répond en langage technologique, parce que lui, c'est le langage qu'il comprend. Ouais, ça donne à un moment une phrase géniale, c'est-à-dire que vous repartez... Parce qu'en fait, vous vous attachez à lui, vous décidez de le rebaptiser Robotique et vous lui demandez s'il peut vous accompagner. Et moi, je n'avais pas du tout prévu qu'en fait, il rejoigne la team.
Imaginer qu'il y a un 6PO maintenant dans la team.
Voilà. Et donc.
Comme ça.
Et du coup, c'était quoi le bâtiment, lui ? En fait, c'était une sorte de musée, c'est ça ?
C'est une sorte de musée. Vous arrivez dans un endroit, une sorte de grande salle, en fait, où il y a une sorte d'immense fausse terre au milieu. Hein, c'est la terre, en fait.
Moi, c'est un serveur ou une salle de commandement, en fait. Et c'est juste que nous, on comprend pas ce qu'on voit.
Voilà, vous voyez une sorte de terre qui tourne au milieu, là, et il y a lui, en fait, c'est comme si ça faisait tellement longtemps qu'il était là que la fausse peau qu'il avait sur lui a commencé à fondre, avec ce qui a dû se passer ici aussi. Et donc, du coup, il est à moitié humain. Vous voyez bien qu'en dessous, c'est pas l'humain, c'est du métal, en fait. Mais il a l'air très gentil, il répond à toutes vos questions. Alors, vous ne comprenez pas la moitié des trucs quand vous lui demandez, par exemple, mais du coup, on est là. Eh bien, la Terre s'est échouée il y a de cela 7 milliards d'années. Enfin, bref,
les chiffres, on ne les comprend pas. Déjà, voilà. Il nous parle en chiffres qu'on ne comprend pas. Les unités de mesure, on ne les comprend pas. On ne comprend rien, en fait. Enfin, c'est impossible de... Même si tu lui demandes une date, par exemple, tu dis, mais ça, c'est arrivé quand ? Il te répond
4500 une date. Ouais, 4500 années après Ignos.
Ouais, première. Mais du coup, on a une preuve, peut-être.
Voilà, et donc vous décidez de le ramener avec.
On cherche une preuve.
Ouais. Une preuve de quoi ?
Bah, je sais pas, mais il a l'air d'avoir beaucoup de réponses.
Ouais, vous dites.
On va apprendre
coup,
à parler le robotique.
Dreki, du coup, le Dreki pourrait avoir enfin la preuve que du coup les îles tombent. Et du coup, vous décidez.
Parce qu'il avait répondu à la question.
Il a dit
dans
oui,
un
en
langage
effet.
Un peu complexe, mais il avait répondu
il avait
pourquoi
répondu,
les îles
en
tombaient.
Effet, les îles tombent.
Ouais, mais je vois déjà le Haven devant ça.
Et un coup de hache.
C'est ça,
au bûcher.
Mais bien sûr.
Et donc, en fait, vous vous dites que... Et vous comprenez à un moment que si vous voulez ramener tout ce que vous voulez ramener, en fait, il vous faudrait quelque chose pour ramener tout ça. Et en fait, je compile les informations et vous explique qu'il y a des hangars dans lesquels il y a des vaisseaux.
Même ça, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Et donc, des hangars sur lesquels il y a des vaisseaux, il dit par contre, attention, c'est un espace dangereux parce qu'il y a de la force nucléaire là-bas. Et ce qui m'amène à la phrase que je l'ai notée tellement elle m'a fait rire. Combien y a-t-il de nucléaire dans cette région de les hangars? je ne peux pas répondre à cette question.
Voilà, ça c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est qu'un hangar, on ne comprend pas ce que c'est qu'un
nucléaire. Oui, quand tu parles à la place de robotique, je note tous les mots. Enfin, à chaque fois, je joue l'imbécile, quoi.
Bah oui.
Tous les mots qu'on n'est pas censé connaître.
Ouais.
Donc je dis, mais...
Et quand vous dites, mais c'est
quoi un vaisseau ? Il y a beaucoup de vos nucléaires, là, dans cette région de les hangars, là. C'est dangereux, vraiment ?
C'est dangereux, mais je ne comprends pas votre question.
Parce qu'apparemment, on va dans un hangar dans lequel il y a des vaisseaux qui fonctionnent avec des réacteurs nucléaires.
Oh lui, alors, c'est lui, pas tout à fait ça qu'il dit. Il dit qu'il y a des anciennes forces nucléaires là-bas, mais qu'il faut passer par ces forces nucléaires pour atteindre les hangars, dans lesquels il y aura des vaisseaux qui pourraient potentiellement voler. Donc là, vous comprenez que vaisseau, en fait, ça veut dire... il y aurait des sortes de trucs qui volent, donc on pourrait rejoindre...
Comme nous, quoi.
Voilà. Ouais. Donc vous décidez d'y aller, parce que comme ça, vous pourriez ramener aussi Aldar, Robotique et le Dreki,
ouais.
Et vos épées, et pourquoi pas ce que vous allez trouver, et donc assez de choses pour prouver tout ce qui se passe, quoi.
Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, depuis le début que tu dis le Dreki, je me dis, mais pourquoi elle l'appelle le Dreki comme ça? Enfin, pour moi, c'était son nom, le Romaric, là, vous allez l'emmener, enfin, tu vois, ça faisait cet effet-là, quoi, tu vois. Ok, mais ça y est, maintenant, je sais pourquoi tu l'appelles le Dreki, là, l'autre Dreki. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on décide effectivement d'emmener Robotique avec nous parce qu'on se dit.
On va prendre un vaisseau parce que. Pourquoi on veut des vaisseaux ?
Pour ramener des choses. Toi, tu décides de ramener pas mal de choses, dont Robotique, pour pouvoir trouver.
Mais on peut pas. On se dit, ah oui, du coup, comme on était 4, on peut pas ramener Robotique. Si, il faudrait faire un aller-retour.
Ah, il est lourd, Robotique, c'est du métal.
Brûlez le robot! Je ne suis pas un robot, je suis un automate!
et donc, du coup, vous décidez, vu que c'est dangereux et que le Dreki et Aldar, ils ont déjà pris cher. D'ailleurs, je remarque que vous n'avez jamais demandé à Dreki son prénom.
Ben non, parce que moi,
je crois que c'était son nom.
Et donc, du coup, vous décidez de les laisser à l'abri, en fait, vous trouvez un endroit où ils sont à l'abri et de venir les chercher quand vous aurez le vaisseau.
Ouais. On va continuer à l'appeler Dreki, c'est hyper poli.
On fait semblant de ne pas comprendre qu'il y a des fuites radioactives qui vont crever.
Ouais, bon. C'est ça.
Non, mais ils ne nous suivent pas.
Non, ils restent en arrière. Vous aviez décidé justement que vous alliez chercher sans eux dans la région de Léangar, parce que quand même Robotique avait dit que c'était très dangereux là-bas. Et comme vous êtes des ailés, vous avez très haut miracle.
Vous avez demandé même à Robotique.
Et justement, il vous dit, en tant qu'ailé, vous pouvez potentiellement résister plus facilement à la menace.
Ah, important ça, le Robotique qui date d'il y a des milliers d'années, là, où j'en sais rien, pas dire, il sait ce que c'est un ailé.
Oui, voilà. Mais vous lui avez pas demandé ce que c'était.
Non, mais il en fait référence.
Il pense qu'on est descendant du peuple qui vivait là avant. Bon, c'est ce que je comprends en fait. Il pense qu'on est.
Tu lui as pas posé la question, sinon il t'aurait répondu.
Ouais, mais ça c'est pareil, tu vois, c'est en tant que joueur, comme tu le sais, tu poses pas la question.
Oui, parce que c'est chiant de faire une séance de Sens Cosmo où t'es là en mode alors, voici toutes mes questions.
Ouais,
et on fait une séance question-réponse.
Ouais,
bon.
C'est ça, c'est un peu bon.
Donc on fait un peu les niais là, les candides, et on dit bon, Robotique,
mais en même temps, ça fait partie du truc drôle de ce personnage.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu le plaisir aussi de ce personnage, c'est de provoquer des trucs un peu débiles.
Et on va s'attacher à lui et puis on va le défendre, tu vois, il va pas mourir avant de répondre aux questions.
D'accord.
J'en suis sûr.
D'accord. j'adore.
Nous serons devenus amis.
Ça me permet d'embrayer.
Est-ce cela l'amitié?
Il faut savoir que Antoine plaît Toulouse à mort.
Voilà. Non, pas Louse.
C'est génial.
Mais si.
Dès qu'il peut y avoir.
Comment oses-tu dire le contraire en fait?
C'est pas Louse.
Mais si. T'es toujours en train de proposer des issues tragiques à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, tu vois, par exemple,
on réussit.
Non, Antoine, parfois on rate et t'es content qu'on rate. Genre, je te donne un exemple. Tu prends l'épée. Oh putain, je suis en train de me casser la gueule. Tu vois, c'est de ta faute. Tu fais Play Toulouse, vous aussi, sur mon siège. Donc, tu prends l'épée. Tu sais très bien que tu vas pas réussir à manier l'épée de Géraldine. Sérieusement.
Elle te le dit en plus l'épée. Mais tu dis ah si si ce sera mais trop si, cool justement. Mais si je vais y arriver
tout, tu vas voir, ça va être trop bien. Ouais, elle te fait mal.
Oui mais tu
tapes une fois, elle te fait mal.
Tu gagnes des choses aussi.
Bah tu tapes une deuxième fois, tu gagnes quoi?
Bah tu découvres ce que c'est l'épée, pourquoi elle veut pas être touchée. Non mais ça crée un truc, c'est pas du vide quoi.
Mais non mais c'est le principe du play to lose. Le principe du play to lose c'est qu'on apprend en perdant, tu vois. Mais c'est volontairement tu provoques des chutes pour apprendre des choses dans le play to lose. Tu loses, ton personnage en prend plein la gueule, mais du coup tu gagnes parce que tu c'est toi.
Frédéric c'est du Synthèse... drama, c'est de... oh mon humanité, voilà. C'est
Frédéric Synthès me disait toujours le héros c'est celui qui souffre. Et il me disait toujours ça.
Qu'est-ce que t'es un héros ?
Et toi, t'es vraiment le héros.
On m'a toujours dit que j'étais un héros.
Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire de mon personnage ton garde du corps et de me mettre à ton service. Parce que moi, j'ai toujours été au service de quelqu'un. Je suis de la case des combattants, je suis pas de la case des dirigeants. Je sais pas diriger, moi. Toi, t'as l'air de savoir ce que tu veux.
Moi, je suis juste mal à l'aise qu'il y ait un gros mec baraque qui se met à mon service, qui pose un genou au sol.
Ça, tu n'as pas l'habitude de ça. Hein. Donc voilà, donc ça fait partie aussi des éléments. Donc le Play to Lose, effectivement, totalement d'accord avec Flavie pour dire que tu joues Play to Lose, ce qui n'empêche pas que tu loses, hein, bien sûr, parce que tu avances, ça, c'est du trembling forward, on dit parfois aussi, c'est de la chute, mais pour aller en avant. Tu vois, par exemple, là, tu proposes par rapport à robotique. Dès qu'on parle de robotique, tu dis oui, ça va être trop bien.
Le premier truc que tu as dit pendant le scénar, tu as dit oh, trop bien, on va devenir amis. Et au moment où il tombera dans le ciel et où je ne pourrai pas le rattraper, il dira c'était donc cela l'amitié. Et je t'ai regardé, j'ai fait très bien, je note.
Tu vois, en fait, le truc, c'est que tu suggères des trucs au MJ.
Oui, mais pour arriver à ça, il va falloir play to win.
Mais oui, ouais, mais t'inquiète que tu vas vachement t'attacher à robotique. T'inquiète.
Mais je suis pas dans le truc ludiste de win ou lose en fait, c'est tout simplement.
Oui, mais non, mais
j'ai pas cette notion là. Moi, ce qui compte, c'est l'histoire. Et je trouve que c'est plus cool de toucher l'épée que de dire ok, je touche pas l'épée.
Plutôt que de dire play to lose, on dirait plutôt play to drama.
Voilà,
on play to story. Play to drama quoi.
Ouais, play to story, mais story now.
Voilà.
Proposition pas, créative narrativiste.
Ce serait chiant dans un film, le mec il dit oui, on m'a dit de pas toucher l'épée, bon bah je touche pas l'épée, voilà. Et le mec il rentre.
Alors il y a une question que tu soulevais dans le dernier podcast, la vie, c'était sur la cohérence de Trip to Sky en termes de proposition créative. Et tu émettais l'hypothèse que la proposition créative simulationniste et la proposition créative narrativiste pouvaient coexister dans Trip to Sky. Moi je suis vraiment en sim à fond la caisse. Hein. C'est-à-dire que moi, je le joue façon chevalier du Zodiac, je me suis incliné devant toi, je serai toujours à votre service, Albéric, etc. Enfin, tu vois, moi, je suis en mode vraiment simulationniste à donf. Toi, tu es en mode narrativiste à fond, ouais. C'est évident. Et en fait, un premier élément qu'on peut dire qui va dans ce sens, c'est déjà le fait qu'on puisse jouer ensemble sans problème. Ça n'a aucun souci.
Il y a des ponts. Il y a plus de ponts entre le narrativisme et le simulationniste qu'entre le narrativisme et le ludisme.
Ça se discute.
Ça se discute.
Tu pourras plus m'entraîner dans le simulationnisme en l'amenant à la table, je pense.
Mais toi, ouais, mais par contre, moi j'ai déjà joué à des jeux qui sont à la fois ludistes et narrativistes et où justement fallait être la personne qui faisait le story now, celui qu'on allait pouvoir juger les personnages. Enfin, non, il y a des ponts entre tout.
Je rappelle juste rapidement les trois propositions créatives pour les gens qui débarqueraient. Donc le simulationniste, c'est le fait de jouer dans un canon esthétique donné.
Ouais, c'est pas le fait de simuler une réalité.
Voilà, attention, c'est le simulationniste au sens de The Forge, hein, pas au sens français. Parce qu'au sens français, simulationniste, c'est le fait d'être dans une simulation d'un monde virtuel quand on fait du jeu de rôle, le plus réel, éventuellement même allant même jusqu'au réalisme, qui est la frange la plus radicale du simulationnisme à la française. Ici, on parle du simulationnisme tel qu'il est défendu et débattu sur The Forge autour des années 2000, donc le simulationnisme de Ron Edwards, de Vincent Baker, d'Emily Kerbos, etc., etc. Donc le truc, c'est que le simulationniste dans ce sens-là, c'est vraiment, dans son acception-là, c'est jouer en cohérence avec un canon esthétique donné. Donc par exemple, on va jouer à Star Wars, on va essayer d'être le plus un Jedi, se sentir le plus un Jedi ce soir. On va jouer au Chevalier Zodiac, on va essayer de se sentir le plus un chevalier ce soir. Le ludisme, c'est le fait de vouloir jouer pour gagner ou pour perdre. Donc ça peut être...
Le droit de se vanter.
Obtenir le droit de se vanter, c'est-à-dire bah, j'ai bien joué, donc j'ai le droit à plus de pex, j'ai une épée qui est plus forte que la tienne, donc si on se bat en combat, bah, je vais gagner, toi tu vas perdre, etc. Donc c'est toutes ces propositions créatives-là. Et enfin, la proposition créative créative narrativiste où tout va être mis au centre, c'est aussi celle qu'on appelle le story now, l'histoire maintenant, tout va être fait pour, c'est-à-dire que ce qui va motiver le joueur à faire des propositions pendant la partie, c'est bien sûr l'histoire, faire avancer l'histoire. Et donc on a pu observer au cours de nos pérégrinations des jeux narrativistes que généralement le fait de concourir à créer une histoire collectivement engendrait aussi des jugements d'ordre moral, c'est-à-dire que du coup on peut juger les personnages en disant ah, ce que t'as fait là c'est vraiment pas bien au sens de la bonté, hein, ou c'est mal au sens du mal avec un grand M, etc., etc. Donc voilà, narrativisme, l'histoire maintenant, le simulationnisme, donc c'est le droit de rêver, the right to dream si on l'appelle pour The Forge, et enfin le ludisme, le droit de se vanter. Alors, une fois qu'on a dit ça, Trip to Sky, Flavif postule l'idée que les deux propositions créatives narrativistes et simulationnistes peuvent coexister. Eh bien oui, moi je suis assez d'accord avec elle, et je pense avoir trouvé à travers Trip to Fly une réponse à ça, parce que c'est un peu la première fois que je joue à Trip to Sky, en fait, grâce à Flavie, parce que jusqu'à maintenant j'avais toujours été meneur, auteur de Trip to Sky, mais je n'avais jamais vraiment joué, j'avais fait une partie ou deux, mais j'avais jamais fait une campagne. Là je réalise un truc, c'est que si ton canon esthétique c'est la tragédie, ou le drama, en fait, tu peux tout à fait jouer avec un narrativiste. Puisque, en fait, ton canon esthétique est sa proposition créative. C'est ça qui se passe.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, dans Trip to Sky, le ludisme est totalement désamorcé. Il n'y a pas de PEX. C'est d'ailleurs ce qui énervait énormément Antoine Cardon dans le podcast que vous avez enregistré à la Citadelle sur Trip to Sky.
Oui.
Ce que signale Antoine Cardon, c'est bon sang, j'ai pas le droit de gagner des objets, j'ai pas le droit de gagner de l'XP, j'ai pas le droit. Je ne suis pas plus fort au début de Trip to Sky que mon personnage n'est pas plus fort au début de Trip to Sky, n'est plus fort à la fin de Trip to Sky qu'il l'était au début.
Parce que c'était un ludiste invétéré sans le savoir. Parce qu'après, on a fait le podcast sur Cetra, on a découvert en fait qu'on n'avait pas la même façon de kiffer les jeux.
Voilà.
Lui, c'est un ludiste 200%.
Antoine Cardon ?
Ouais. S'il n'a pas l'XP et l'épée, c'est mort.
Sauf si son canon esthétique, c'est la chevalerie et la noblesse. Dans ces cas-là, le ludisme peut être mis au service du simulationnisme. Et c'est pour ça que dans ce sens, ça passe.
Tu as de l'XP.
Oui, non, mais ben justement, c'est ce que je te dis. C'est que oui, mais en même temps, il a mis en fait son simulationnisme dans le fait de jouer un personnage bourrin qui allait être plus fort que et toujours plus fort. Ce qui est vraiment le cadre de la chevalerie, tu vois, comment on appelle ça, dans les shonen du.
Neketsu.
Ouais, tu vois, le côté. Step. Tu vois, tu franchis des étapes. Ouais, je sais plus, il y a un nom.
J'en ai
un nom pour
aucune
ça, non,
idée de ce
nom. C'est le nom aussi qui était utilisé par Ron Edwards. Bref, peu importe. Mais en tout cas, il a fait en fait de son canon esthétique le ludisme, il en a fait un canon esthétique, si tu veux. C'est pour ça que ça passe. En fait, je pense que les jeux simulationnistes, en fonction du canon esthétique que tu choisis, ils peuvent se rendre cohérents avec du ludisme ou du narrativisme. Et donc, c'est ce que j'observe, en tout cas, là, dans ces parties-là. Et donc là, c'est ça qui marche bien. C'est que, du coup, comme le canon esthétique que j'ai choisi d'incarner, c'est la chevalerie tragique à la Polaris de Ben Lehman, et que toi, t'es dans le story now, ça passe. Et de la même manière, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, comme le ludisme est totalement désamorcé dans Trip to Sky, y a pas... De toute façon, on va réussir le combat. Quand il y a un combat, quand tu nous poses des problèmes, on sait qu'on va réussir. C'est comme dans Columbo, on sait qu'il va trouver le truc.
Si on réussit pas, de toute façon, ça va quand même avancer.
Oui, ce sera une fin de scène et on se réveillera ailleurs.
Exactement. Et puis vraiment, le système te dit... Tu as le droit de prendre des dés en décrivant comment tu résous le problème. Il ne te dit pas, tu vas prendre des dés pour espérer résoudre le problème ou ne pas le résoudre. Tu vois la différence ? C'est-à-dire qu'on sait qu'on va résoudre, mais ce qui compte, c'est comment on le fait. D'où le fait que le canon esthétique soit vraiment simulationniste, parce que c'est vraiment la façon de faire qui va déterminer. Donc le canon esthétique qui va être au centre de la narration. Mais du coup, ça désamorce complètement le ludisme, parce qu'on sait qu'on va réussir. Il n'y a pas de potentiel échec. Alors on peut quand même échouer, hein. Si tout le monde est épuisé, on échoue. Mais ça peut arriver.
Oui.
Mais ça donne l'occasion.
C'est arrivé au premier scénar de Géraldine.
C'est vrai.
Elle a été épuisée. Ouais.
Mais c'est pas un échec.
C'est pas un échec. Ça lui a permis juste d'avancer
noir,
vers autre chose.
Fondu au noir, générique, mais rendez-vous à l'épisode 2.
Pour un ludiste, ce sera un échec. Mais pas pour un narrativiste.
Voilà. Et figurez-vous que ce qui l'a épuisé, c'est un Jormungandr.
Germingandre.
Ah ouais, d'accord. Ah bah dis donc, incroyable. Décidément, il va nous suivre celui-là.
Je t'ai fait exprès.
Excellent. Trop fort. Trop forte, Flavie. Ok, donc voilà, ma première hypothèse, c'est ça. C'est que ça fonctionne parce que, un, le ludisme est désamorcé, et deux, parce que le canon esthétique choisi correspond à... Mais on va voir jusqu'où ça peut marcher. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir des difficultés quand même à jouer? On va voir, on va voir. Ça va être très intéressant.
Eh ben, moi, merci beaucoup. Je pense que ça va très bien se passer.
Oui, moi aussi, je pense. Et alors, avec Géraldine, ça va amener une nouvelle dynamique aussi à la table. Je ne sais absolument pas quelle est la proposition créative que va préférer en fait Géraldine entre les trois propositions créatives. Dans quel type de jeu elle va se reconnaître le plus?
Narrative, je pense. Non.
Pour alors, l'instant, elle est...
Moi, je
elle
la connais
est...
plutôt ludiste, hein, perso.
Oui,
mais parce que je la vois jouer à des jeux de société.
Alors, voilà, moi, je l'ai vue jouer. Elle est plus, plus sim pour l'instant.
Ah oui ?
Ouais. Par contre, elle crée plein de trucs autour d'elle. Elle a des amis, elle a des machins. Elle a des
Donc, comprendre, on essentialise ici le joueur sim, le joueur machin. D'abord, Ron Edwards lui-même le fait dans les premiers articles sur le sujet. Mais ce qu'on
on
veut dire,
c'est qu'on est toujours un mélange.
On est toujours, les uns les autres, on est toujours un mélange de plusieurs propositions créatives. C'est juste avec laquelle on est le plus à l'aise. Quand on dit que Géraldine est sim, ce qu'on veut dire, bien entendu, c'est que Géraldine semble plus à l'aise pour l'instant pour faire des propositions qui vont dans le sens de se sentir dans
Le premier scénar, c'est toujours compliqué parce que tu prends en main ton personnage, tu le découvres autant et tu le crées autant que t'es en train de le jouer, donc...
Bien sûr. Mais ok, ouais, bah écoute, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça va être génial. J'ai trop hâte de jouer avec Géraldine.
Ouais, elle est à fond, bah, elle m'a envoyé des images de son personnage qu'elle avait créé en IA, et avec le peu d'informations qu'elle avait eues sur vous par son épée, elle m'a envoyé une image de vous qu'elle a créée par IA. L'épée vous aime pas.
J'ai hâte de voir ça.
Les IA ne nous aiment pas non plus.
Je te montrerai ça.
Nous n'aimons pas les IA d'ailleurs. Voilà, voilà. À part bien sûr Robotique, qui a l'air très gentille.
Oui, puis de toute façon,
je compile les informations.
Le perso de Géraldine, si elle est à l'image de son épée, on risque pas de l'aimer, je pense.
Oh l'autre, tu vois,
elle est caractérielle, son épée.
Elle est caractérielle. Non, elle était caractérielle dans tes mains. Mais c'est toi qui essayes de prendre une épée qui n'est pas à toi. Oh non, comment il retourne la situation.
Non, mais je plaisante, je
il
joue,
est
là.
Formidable cet Albéric, il est formidable. Bon, ok, bon, bah, merci en tout cas Flavie. On retourne au parti. Là, ça va être notre dernier scénario sans Géraldine.
Exactement, ouais. Pour ça, là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on joue parce que vous avez des choses à faire en fait.
Ouais, ça roule, allez, on y va.
Au boulot.
On y va, au boulot. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.